Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Chers auditeurs, auditrices des Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Quelles sont les nouvelles réglementations du ministère de la Justice sur la réglementation des églises? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Maître Omar Kigalo. Il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Omar Kigalo, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour à tous les auditeurs.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Vos questions, vos commentaires, vos témoignages sont les bienvenus au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de M. Arafat Chamuta de Lubumbashi qui pense que les problèmes résident au sein même du ministère de la Justice qui doit d'abord organiser ses services avant de s'attaquer aux églises, aux ONG et aux ASBL. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Fesabongonda réalise cette émission et Pierre Diassinois s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelles sont les nouvelles réglementations du ministère de la Justice sur les églises, les ONG, les ASBL? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous au numéro 099-706-9941 et nous allons vous rappeler pour prendre part afin d'intervenir dans ces rendez-vous. Dans sa circulaire du vendredi 20 juillet dernier, Constant Moutamba, ministre d'État chargé de la Justice et garde des Sceaux, interdit l'installation d'une association confessionnelle dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre église. Par ailleurs, le ministère de la Justice a prolongé de 3 mois, soit de 90 jours à dater du 20 juillet, les délais pour l'obtention d'une personnalité juridique pour les associations sans but lucratif qui fait tomber d'office CADIC les fameux numéros folio F non ondé. Tout représentant légal, fondateur ou visionnaire du ministère des cultes, du ministère des cultes doit se faire identifier afin d'obtenir un permis d'exercice des cultes. Quels sont les facteurs qui ont motivé cette série de mesures? Nous en parlons avec Maître Omar Kigalo. Nous rappelons qu'il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Omar, légalement parlant, comment est-ce qu'on définit une association, une église, une ONG, une ASBL?
Merci beaucoup, monsieur Tati, de l'invitation d'abord. Merci aussi du verbe que vous m'adjugez. Dès l'éliminaire de mon intervention, je voudrais déjà rappeler ce que l'article premier de notre loi fondamentale dit. La RDC est un état de droit et un état laïque. Mmh. C'est-à-dire un état où tout secteur, même celui des ASBL, est réglementé, d'un État où la liberté des cultes est garantie. Alors, par rapport à la RDC, il s'agit d'une loi qui a été votée le 20 juillet 2001. La loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables aux ASBL. Votre question est intéressante. Si vous lisez l'article premier de cette loi, cette loi définit l'ASBL comme une association à but lucratif, c'est-à-dire un groupe d'individus ou une structure associative qui ne vise pas le lucre, qui ne vise pas les bénéfices financiers, mais qui vise la poursuite d'un but d'intérêt général. Les gens qui s'associent, qui se réunissent pour créer une ONG, une ASBL ou une église, ne visent pas à gagner les bénéfices comme dans les cas de société commerciale. Ils visent à poursuivre un but d'intérêt général. Ça, c'est la définition. Par rapport à la différence, c'est l'article 2 qui catégorise trois sortes d'ASBL. Nous avons d'abord les associations à caractère culturel, social ou éducatif ou humanitaire. C'est-à-dire, M. Tati et ses collègues peuvent se réunir pour aider les orphelins. Une association humanitaire. Il y a aussi, deuxième catégorie, les ONGD. Des structures qui sont créées dans un but précis d'apporter un développement économique dans un milieu déterminé. Ce qu'on appelle ONGD. Et enfin, nous avons les associations confessionnelles qu'on appelle églises. Voici donc de manière légale les trois catégories d'associations sans but lucratif. Les associations culturelles, humanitaires et associatives, les associations qu'on appelle ONGD, ainsi que les églises. Alors, l'article 3 de cette loi précise et dispose qu'aucune association sans but lucratif, fût-elle une église, une ONGD ou une autre association à caractère humanitaire, ne peut fonctionner si elle ne possède pas la personnalité juridique. Ça veut dire, en termes faciles, l'autorisation que l'État vous accorde de fonctionner comme une structure associative. Et se matérialise par un arrêté pris par le ministre de la Justice. Parce que les articles 3, 4, 5, 9 et 14 de cette loi donnent au ministre de la Justice le pouvoir de réguler les secteurs des ASBL. Alors, par rapport à votre principale question, quels sont les facteurs qui ont milité à la prise de cette circulaire? Premièrement, il s'agit de l'obligation qu'a le ministre de réguler les secteurs. Il y a toute une ordonnance qui fixe les attributions. Et lui a comme pouvoir, comme compétence, de réguler les secteurs des ASBL, y compris les églises.
Oui, mais maître, s'il vous plaît, la loi à laquelle tu as fait allusion en 2001 a démontré ses faiblesses dans les temps pour que l'actuel ministre puisse mettre de l'ordre dans les secteurs.
J'en venais. Très bonne question. Il faudrait ici rappeler à tous les Congolais, il y a ce qu'on appelle en droit la théorie de l'acte contraire ou les principes de parallélisme et de forme et de compétences. Il n'y a qu'une loi qui peut abroger une autre loi. Ça, c'est le principe. Donc, cette loi demeure. La circulaire n'a pas pour vocation de remplacer la loi. Une circulaire est une mesure administrative prise par une autorité administrative pour rappeler les dispositions légales déjà existantes. C'est ça, la circulaire. Donc, en réalité, rien n'a été changé après 23 ans, parce que la loi a été votée le 20 juillet 2001. Le 20 juillet 2024, les ministres prennent une circulaire pour rappeler ce qu'on doit faire, parce que c'est vrai, vous êtes libre d'exercer votre culte, mais cela doit respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Donc, c'est une précision pédagogique. Lorsque la loi est décidée, et les autorités administratives prennent des arrêtés et des circulaires pour la compléter. Et une case au spéquier. La circulaire prise n'a rien modifié, parce que doctrinalement parlant et théoriquement, une circulaire est un communiqué dans lequel l'autorité administrative rappelle à ses subordonnés, ses préposés, voilà ce que vous devez faire.
Oui,
parce
mais
tout
mais
ce lorsque, qu'il a cité.
Oui, maître, mais lorsque le ministère demande aux associations ASBL et ONG de se conformer, parce qu'il y a des ONG qui disent que elles ont déjà obtenu les F90 depuis longtemps et donc c'est on appelle ça quoi les documents de la justice, on n'a pas remis en question ces documents-là, mais comment est-ce que le même ministère qui avait donné l'autorisation par les passés, aujourd'hui leur demande de se conformer?
Très bonne question, M. Tati. C'est ce qu'on appelle en droit « nul ne peut se prévaloir de... »
Maître Omar?
Allô?
Oui, on vous reçoit, allez-y.
Vous m'entendez?
Oui.
Je disais, votre question est noble, car en droit, il y a un principe élémentaire qui dit « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Les ONG et les églises ne se sont pas attribués ces F92. C'est une pratique instrumentalisée et concoctée par les agents du ministère de la Justice qui accordent les F92 Et puis lorsqu'ils viennent contrôler sur terrain, ils donnent cela la valeur. Même pour ouvrir un compte bancaire, on permet à ce que les F92 soient faits. Alors que je l'ai toujours dit, je le rappelle, les F92 n'est pas une autorisation provisoire. Ce n'est qu'une numérotation administrative qu'on appelle folio 92. Mmh. Il y a des folios 40, il y a des folios 100. Même dans les certificats d'enregistrement, il y a des folios. Donc, il devait commencer par s'attaquer à son système. Parce que ce sont ses agents qui ont commencé à monnayer cela. Parce que nous l'avons dit, la circulaire est bonne. Elle a rappelé les dispositions légales. Aujourd'hui, il y a aussi un besoin d'assainir les secteurs des églises. Aujourd'hui, il faut voir comment certains pasteurs se comportent, même en s'insultant. Le mot église vient du grec ecclésia, qui signifie les gens qui sont mis à part pour apporter des solutions aux problèmes de la cité. Ils doivent prêcher par l'exemple, ce sont des leaders d'opinion. C'était ça. Donc, par rapport à votre question, le ministre devait commencer par réguler. Parce que je l'ai dit la fois dernière, les F92 n'a jamais accordé une protection juridique. Le seul document légal que la loi reconnaît, c'est l'arrêté. Mais comment cela se passe? Si vous lisez les articles 4 et 32, on dit lorsque vous créez votre association, ça peut être une église, ça peut être une autre association culturelle, ça peut être une ONGD. Vous devez écrire au ministre des tutelles, c'est-à-dire ministre de la Justice, pour lui demander la personnalité juridique. Vous devez annexer à cette lettre vos statuts. Combien d'églises aujourd'hui ont des statuts? Combien? N'en ont pas. Votre règlement et ces statuts règlements doivent être notariés, c'est-à-dire authentifiés par les notaires qui est l'autorité compétente. Vous devez annexer la liste des déclarations des ressources. Comment vous obtenez vos ressources? Est-ce un financement ou vos cotisations au niveau de membres? Vous devez préciser votre doctrine. Et la loi doit veiller si la doctrine n'est pas conforme, non conforme à la loi. Vous devez avoir des certificats de bonne vie et mœurs de tous les membres qui dirigent. Et pour les autres aspects en dehors des églises, vous devez avoir l'avis favorable du ministre concerné par rapport à votre secteur d'activité. Ce sont là les conditions que la loi a fixées.
Lorsque vous les déposez. Maître, lorsqu'on dépose cette demande-là et que la demande est encodée dans les F92, la même loi dit qu'au bout de 3 mois, si le ministère ne vous demande pas de compléter le dossier, c'est que si vous êtes dans le pipeline, c'est bon.
Très bien. L'article 6 de la loi dit, lorsque vous déposez le dossier, on vous remet ce qu'on appelle le récépissé ou l'accusé de réception, et non les F92. Parce que le mot F92 n'a pas de soubassement légal. C'est une pratique qui a élu domicile au ministère. Voilà pourquoi le ministre est venu pour revenir par rapport à la loi. Lorsque vous déposez, on vous remet l'accusé de réception. C'est une autorisation provisoire qui a une validité de 6 mois. Après 6 mois, si le ministre ne signe pas l'arrêté, vous êtes censé avoir la personnalité juridique. Voilà pourquoi je voudrais ici préciser. D'ailleurs, dans son communiqué, il a été clair. Pour les ASBL qui ont déjà obtenu auparavant les F92 et qui ont déjà rempli tous les critères, parce qu'il y a des frais aussi à payer. Pour cela, ils doivent prouver. Il suffit pas de le dire. Vous venez au ministère, vous dites, monsieur le ministre, nous avons déjà déposé. Vous montrez l'accusé des réceptions. Vous montrez la preuve d'avoir déposé les certificats de bonne vie, le frais bancaire payé. Là, le ministre a l'obligation de signer. Et s'il ne le fait pas pendant 6 mois, vous tombez. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Tati? Dans la pratique, quelqu'un vient, il voit un agent, on lui sort un F92. Lorsqu'il vient demander l'arrêté, on lui demande la preuve qu'il a déposée. Il n'en a pas. Il n'a que le F92. C'est ça la confusion qui a entretenu durant tous ces temps et qui a fait que les gens souffrent. Mais logiquement parlant, lorsqu'une personne dépose tout ce qui est exigé par la loi et que les documents ont été signés et qu'il a payé les frais, en tout cas, le ministre a l'obligation. Donc, autant les ONG doivent se conformer, les églises doivent se conformer, les ministres doivent aussi traiter les cas de manière spécifique. Toutes les ASBL, toutes les églises qui ont les F92 qui eux-mêmes ont cautionné et qui ont déjà payé les frais bancaires et déposé tout ce qui est exigé, doivent avoir leurs arrêtés. S'ils ne les font pas, en tout cas, ils peuvent saisir les conseils d'État parce que l'autorité administrative n'est pas au-dessus de la loi. Voilà un peu, monsieur Tati, ce que je voulais dire par rapport au F92. Les F92 est une pratique qui précise que votre dossier a été enregistré. Voilà le numéro qu'on vous attribue. Mais les documents qui vous autorisent de fonctionner, c'est l'accusé des réceptions. À l'époque, avant son arrivée, la ministre Rose Mutombo avait même supprimé déjà. Elle a dit, nous voulons plus de pratique F92. Ça rend paresseux les administrateurs des ONG. Oui, revenons à l'ancien système légalement reconnu.
Maître, on me signale qu'il y a un auditeur en ligne. Il va se présenter et nous dire là où il est et puis on lui donnera la parole. Quelles sont les nouvelles réglementations du ministère de la Justice sur les fonctionnements des églises et autres associations? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Et si le sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 0 99 706 99 41. Appelez-nous, nous nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Voilà, le premier auditeur, il s'appelle Thomas, il est depuis la ville de Bounia, il intervient depuis la ville de Bounia. Monsieur Thomas, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. C'est monsieur. Est-ce que vous me recevez? Oui. À vous la parole, présentez-vous et dites-nous où est-ce que vous êtes.
Moi, c'est Clément Daye depuis la ville de Kananga, pas Thomas de Bounia.
Ah, excusez-moi, c'est plutôt Clément Daye de la ville de Kananga. À vous la parole.
Bonjour Kapi, bonjour aussi à l'invité de la Radio Kapi et à tous les auditeurs de la Radio Kapi aussi. Il est vrai que le gouvernement congolais a beaucoup à faire, et pas seulement pour les églises, mais aussi dans beaucoup de domaines. Mais une chose est certaine, les églises sont devenues le seul moyen par lequel nos compatriotes veulent s'enrichir. Banque de boulot, il y a ceux qui sont engagés sans pour autant être payés. Mais une chose est certaine, la question dont je me pose, est-ce que vraiment cette mesure demeurera pour toujours, ou bien c'est une mesure prise au hasard, qui à un moment donné, l'argent va commencer à circuler, et puis on va surseoir des mesures pareilles. C'est ainsi que je voudrais demander, est-ce que ça demeurera pour toujours, ou bien c'est pour un temps? Merci Cathy, bonne journée chez vous.
Excellente journée à vous également à Kananga, monsieur Clément Daye. Maître Omar, comment répondez-vous à l'auditeur qui nous a appelé depuis la ville de Kananga? Il s'agit de monsieur Clément.
Il y avait une coupure, si vous pouvez me rappeler sa question.
Oui, il a voulu savoir, est-ce que c'est une mesure provisoire ou c'est une décision qui sera définitive concernant les fonctionnements d'églises et associations?
Sur le plan légal, la circulaire n'a pas une valeur de décision. C'est juste un communiqué dans lequel les ministres rappellent des dispositions légales. Et en tant qu'autorité, il a rappelé que dans le délai des 3 mois, ceux qui ne seront pas en conformité avec cette disposition seront sanctionnés. Déjà, la loi lui donne les pouvoirs de contrôler, de censurer, et de manière traditionnelle, il a les pouvoirs de veiller, si la loi n'est pas respectée, de sanctionner. Donc, c'est une circulaire qui a la valeur d'un communiqué rappelant les dispositions légales existantes. Et toute personne qui ne respecte pas la loi sera, n'est-ce pas, sanctionné.
Oui, voilà, mais maître, la difficulté est que maintenant les églises, il y a celles qui se trouvent à moins de 500 mètres dans nos quartiers et communes, ils ont déjà acheté des parcelles, ils ont déjà construit des édifices, et c'est compliqué que cette mesure soit d'application en réalité, dans la pratique.
Voilà pourquoi j'ai dit, au-delà des appréciations que nous avons émises à l'égard de cette circulaire, parce que nous voulons tous que l'État soit bien réglementé, il y a également des critiques à formuler. Notamment, lorsque le ministre parle des rayons des 100 mètres. Ce ne sont pas les églises qui s'attribuent des espaces. Tout est organisé par les ministères de l'urbanisme et habitat. Il y a des services communaux et consorts. Alors, pour une église déjà existante, dans un coin de 500 mètres, en vertu de quelle disposition légale le ministre va fermer cette église? Parce que pour ouvrir, il y a ce qu'on appelle l'autorisation d'ouverture accordée par leur ministère. Il y a une enquête de viabilité sur terrain. Avant qu'on vous autorise d'ouvrir, même de manière provisoire, même vous de remettre les F92, il y a un service d'enquête qui s'est fait sur terrain. Comment le ministre va sanctionner une église que lui-même, à travers ses services, a autorisé de fonctionner? En droit, la compétence est d'attribution. Il a le rôle de réguler les églises, mais l'environnement, l'urbanisme ne relève pas de sa compétence. Et un autre fait. Lorsqu'il parle de l'identification des hommes de Dieu. Mais moi, je me demande, c'est en vertu de quel soubassement légal? Si vous lisez la loi, les articles 49 et 50 précisent, pour les églises, les visionnaires ou les fondateurs, ainsi que les représentants légaux doivent être sains d'esprit. Ça veut dire, ils font un examen médical par un neuropsychiatre. Ils doivent être une bonne moralité, en remettant le certificat des bonnes vieux mœurs. Ils doivent faire preuve d'une maîtrise en théologie, soit une licence ou l'équivalent. Lorsqu'on étudie le dossier au niveau de ces services, c'est tout cela, on vérifie. Mais comment voulez-vous une église qui a déjà un arrêté, qui lui octroie l'autorisation de fonctionner, vous demander à son pasteur de venir encore s'identifier? Ce sont là les lacunes que nous dénonçons. Donc, Monseigneur Ambongo va venir devant le ministre pour s'identifier et avoir un permis de culte. Le pasteur Roland Dallo va venir s'identifier. Les responsables de Kimbangu étaient là. une église plus de 100 ans, va venir s'identifier. L'identification s'est faite de manière préalable.
Oui.
Est-ce que c'est illogique? Comment peut-on attribuer un arrêté à une église et demander à son pasteur de s'identifier pour avoir la permission d'exercer?
Maître, donc, je reviens à vous. Il y a un auditeur au standard. Hein, on lui donne la parole et puis nous retournons au studio. Justin Calabia, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour aussi à notre invité.
Nous vous donnons la parole.
Merci, monsieur Tati, de m'associer dans cette bonne émission. Parce que c'est une émission qui est à toi, parce que moi, je me demande est-ce que la justice, est-ce qu'il peut s'imprégner sur les églises alors que nous avons des problèmes dans ces pays? Oui, monsieur Tati.
Quelle est votre préoccupation précise, monsieur Justin?
S'il vous plaît, monsieur Tati. Donc, j'ai une préoccupation, mais avant qu'on en arrive, j'aimerais mettre une suggestion.
Allez-y rapidement. Il y a des auditeurs qui, d'autres auditeurs qui attendent.
Hein? Oui. Et donc, oui, j'ai dit ceci, monsieur Tati, que, et donc, la population congolaise est asphyxiée, monsieur Tati, en écoutant, en tout cas, la déclaration de ministre pour fermer certaines églises qui ne sont pas à règle, monsieur Tati, parce que la RDC fait face à plusieurs problèmes, alors qu'il y a certaines personnes qui sont, nous qui sommes par exemple ici à l'Est, il y a certaines personnes qui vont à l'église pour confesser ou pour prier afin que les terroristes de M23 ne puissent pas nous arriver, monsieur Tati, alors que quand le ministre aussi s'imprègne de la situation de fermer certaines églises, ça nous fait peur. Moi, je me demande, est-ce que vraiment le ministre devrait s'imprégner de la religion au lieu de s'essayer? Est-ce que ça, c'est la priorité pour ce pays? Ça, ce n'est pas, en tout cas, quant à nous, ce n'est pas une priorité pour le ministre de la Justice.
Oui, mais
la question,
Justin,
est celle de savoir...
Monsieur Justin, s'il vous plaît, il n'y a pas du mal à assainir le secteur. Moi, je ne vois pas d'inconvénient.
Il y a des inconvénients, monsieur Tati.
Lesquels?
Le problème que nous avons ici au pays, ce n'est pas les églises. Mais c'est seulement avoir une bonne justice. Nous connaissons que c'est la justice qui élève une nation. Alors que nous, notre justice est malade. Ici au pays, vous êtes sans ignorer que nous n'avons pas une bonne justice ici au pays. Il y a les détourneurs qui détournent les deniers publics, monsieur Tati. Et après, ils font des maladies que non, ils vont aller se soigner ailleurs. Après avoir pillé même les paisibles citoyens, il y a beaucoup d'argent qui sont s'envolés.
Merci beaucoup, monsieur Justin.
Entre les mains de nos politiciens, etc.
Oui, mais merci beaucoup, monsieur Justin.
La justice ne devrait pas se prendre de la religion
ou des
problèmes de la foi.
Oui, vous pensez que c'est pas prioritaire. Merci beaucoup, c'est votre opinion. Mais quelle est la question précise que vous avez à poser à l'invité?
Oui, la question est celle de savoir, est-ce que... Que dit la loi? Lorsque l'église trouve des numéros, défend le numéro 92, si j'ai une bonne mémoire.
Oui.
Oui, 92, si j'ai une bonne mémoire, monsieur Tati. Mais que dit la loi? Lorsque une église a déjà un numéro qui a déjà eu sa parcelle, alors que même si c'est à quelques mètres, comme le ministre a dit, il faut que ça soit à 500, plus de 500 mètres. Alors que cette église s'est implantée depuis des années et des années. Alors que l'arrivée de ce nouveau Décostant, de ce nouveau ministre de la Justice, lui, il veut mettre fin à tout ça. Mais là, qu'est-ce dit la loi à toutes ces églises qui se sont implantées? Ça fait plus même de 10 ans. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Justin Calabia. Je rappelle que vous nous intervenez depuis la ville de Bounia. Notre invité va vous donner des précisions sur ta préoccupation. Excellente journée au niveau de la ville de Kananga. Il y a un autre auditeur qui est au standard. Il intervient depuis la ville de Kananga. Il s'appelle Roger. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Ok, merci beaucoup. Je suis toujours à l'écoute de votre émission parce que ici, à Kananga, nous voyons tant des églises. Nous devons mettre chaque chose à sa place. Pourquoi pas? Nous devons suivre tout ce que le ministre a dit. On ne peut jamais aller au-delà de l'imagination pour commencer à parler de n'importe quoi. Bien sûr, mais il faut juger de notre côté, de notre pays.
Merci beaucoup, M. Roger. Nous devons nous conformer, d'après vous, hein, à la réglementation dans le secteur. Excellente journée au niveau de la ville de Kananga. Maître Omar Kigalo, comment répondez-vous à nos deux auditeurs, hein? Justin Kalabia de Bounia, qui veut savoir dans la pratique comment est-ce que cette mesure sera d'application.
Merci beaucoup, M. Tati. Par rapport à M. Justin Kalabia, une église qui a le numéro F92 pour se conformer doit d'abord déposer tous les dossiers exigés. C'est-à-dire, je les avais cités, les certificats des bonnes vieux mœurs de tous ces dirigeants, la déclaration des ressources, les statuts notariés, les règlements intérieurs notariés, ainsi que la désignation des membres qui dirigent par les membres effectifs, et aussi payer les frais exigés. Dès lors, une église remplit ses critères, il a l'autorisation pendant 6 mois provisoire, et après 6 mois, si le ministre décide n'est pas, cette église est censée fonctionner, même si on ferme, la loi, la justice va réhabiliter. Mais ça pose un problème de sensibilisation. Et là, je le rejoins. Aujourd'hui, tout ce que nous déplorons a 3 causes principales. La première cause, c'est l'ignorance de la loi. Mmh. Est-ce que la plupart des pasteurs, des diacres, des personnes maîtrisent la loi de 2001? J'ai dit merci à la Radio Capi, merci Monsieur Tati et tout le monde. Vous faites un effort de sensibiliser. Beaucoup d'églises apprennent maintenant. Moi, je suis conseil de plusieurs églises. Il arrive qu'une église fasse 20 ans sans avoir même des statuts, alors que les statuts constituent la base doctrinale de votre église qui précise comment vous êtes. Parce que la loi dit on ne peut pas créer une église si on n'est pas au minimum 7 personnes. L'église n'est pas un bien privé, c'est un bien collectif. Donc, oui, mais, il y a un problème de sensibilisation.
Maître, je reviens à vous. Hein. On donne d'abord la priorité à l'auditeur, comme ça nous allons retourner au studio. Thomas, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue dans Capi Service. Monsieur Thomas, s'il vous plaît, éteignez la radio, écoutez-nous au téléphone, hein. Malheureusement, il a le transistor allumé qui résonne à ses côtés et ça dérange la fiabilité de la communication. Maître, vous étiez en train de faire allusion à la réglementation qui conditionne l'ouverture des églises et associations.
Je disais donc, dans tout secteur de la vie, il faut toujours avoir un conseiller juridique. Toute église doit avoir un conseiller juridique dans son comité, et ce conseiller juridique a le rôle de rappeler aux membres de l'église, voilà ce que la loi exige. Il y a un problème de sensibilisation. Deux, il y a un problème de défaut de contrôle. Les agents du ministère de la Justice ont l'obligation de faire une descente sur terrain dans chaque église pour vérifier si l'église a des statuts conformes, si les règlements existent, quelles sont les modalités des assemblées générales. Alors, les défauts de ces contrôles font que les gens, c'est la coule douce. Et en fait, il y a la torpeur administrative, comme on a dit. On accorde de n'importe quoi à n'importe qui. Quelqu'un vient, vous n'avez pas vérifié sa moralité, vous n'avez pas vérifié son passé, vous n'avez pas vérifié son niveau d'études théologiques ou sa connaissance de la parole, vous lui accordez les F9 de manière brutale. Si ces 3 choses sont réunies, on aura fait œuvre utile. Par rapport à Monsieur Dekananga, oui, quelqu'un a dit faut pas s'attaquer aux églises. Moi, je suis un fervent chrétien, convaincu et convaincant. Je suis un drogué de Jésus. Mais la Bible elle-même nous dit dans Romains 13, 1 à 2, nous devons respecter les autorités établies. Oui. Un vrai chrétien, c'est lui qui respecte aussi la loi. Mmh. La Bible dit aussi, les chrétiens n'ont pas peur du magistrat parce qu'il ne fait pas le mal. Donc, l'État doit être réglementé dans tous les secteurs. L'effet pour le ministre de venir rappeler aux églises qu'elles doivent se conformer à la loi, ce n'est pas une mauvaise chose. Il n'a commis aucun péché. Mais seulement ce que nous lui reprochons, il aurait dû commencer par nettoyer sa propre maison avec des agents véreux qui sont en train d'octroyer n'importe quoi, en les rappelant aussi leur devoir de contrôler. Et aussi, il aurait dû commencer par la sensibilisation. Avant, il avait dit 1 mois. Et j'ai vu, il s'est rétracté, il a dit 3 mois. C'est qu'il a conscience que nombreux ne les font pas par mauvaise foi. Nombreux n'ont pas été sensibilisés puisqu'ils apprennent. Le rôle de l'État, c'est aussi de prévenir, de conseiller avant de sanctionner. Voilà un peu par rapport à la question du monsieur de Canang.
Maître Omar, alors il y a aussi l'auditeur Clément qui a dit mais la difficulté dans la mise en route de cette nouvelle mesure est qu'il y a les églises qui existent déjà, des bâtisses qui sont déjà construites peut-être côte à côte ou à moins de 500 mètres. Et comment est-ce qu'on va trancher cette situation?
C'est ce que j'aime, c'est que mon professeur Nabiro vous disait, c'est pas parce que les crimes perpétuent qu'on doit supprimer le droit. C'est pas parce que le voleur continue de voler qu'on va supprimer, non. L'erreur commune ne peut pas toujours faire le droit. C'est un constat qui a fait et un constat malheureux. Comme je l'ai dit, par rapport à la mesure des 500 mètres, pour les églises qui les font déjà, le ministre doit s'assumer. Parce que avant de fonctionner, avant de continuer à œuvrer comme culte, comme église, il y a une enquête de viabilité qui est faite et par la commune et par les ministères de la justice. On vous permet, on suppose que vous êtes dans les bons. Alors comment voulez-vous chasser les gens que vous-même vous avez installés? Ça, c'est un problème. Mmh. Mais de deux, il y a aussi la loi sur l'environnement, la loi sur l'urbanisme qui précise. Il y a aussi la loi sur les nuisances sonores. Si cette loi, j'ai vu le ministre échanger avec les ministres de l'urbanisme, il y a des édits provinciaux qui interdisent. Alors si on veut éloigner les gens de 500 mètres par rapport au bruit, par exemple, on comprendrait. Mais nulle part dans la loi du 20 juillet 2001, on parle des distances. Mais pour des raisons d'esthétique et de propreté, à la longue, pas maintenant, on peut quand même dire, bon, désormais, on les coule sous forme d'arrêté. Parce que la loi existe. Pour qu'elle soit appliquée ou abrogée, il faut une autre loi ou qu'elle soit complétée. Alors, quand vous dites seulement pas des 500 mètres, vous fondez la mesure sur quoi? Moi, je pense la solution à ces problèmes, par rapport aux églises déjà existantes, elles doivent observer les règles environnementales par rapport à la nuisance. Mais de manière prochaine, le ministre doit prendre un arrêté ou de manière formelle, il interdit cela. Mais il y a des vrais problèmes qui doivent être traités, monsieur Tati, au lieu de s'attarder seulement au niveau des SPL. Les ministres auraient dû aussi penser aux problèmes de frais, des frais de justice à payer pour avoir. Oui. C'est l'une des causes. Si vous lisez l'article, je crois...
Et même les frais à payer, là, ne sont pas vulgarisés. On fait payer les gens selon les individus, selon les humeurs.
Voilà. Si vous lisez l'article 57 de la loi de 2001 sur les ASBL, la loi est claire. Elle fixe des frais à payer lorsqu'on postule, elle fixe les frais à payer pour la requête, et c'est 2500 francs, 500 francs, 3000. C'est d'ailleurs fixé en francs congolais. Mais lorsque vous allez sur terrain, c'est des 650 à 1000 dollars, monsieur Jody, monsieur Tati.
Oui.
C'est illégal. La fois dernière, on a parlé avec vous lors d'une émission de la problématique de l'illégalité des frais qu'on exige. Toutes les amendes, tous les frais de justice sont toujours fixés en francs congolais. Mais au ministère de la justice, les lieux qui sont censés prôner les valeurs, on vous fixe en dollars, méprisant ainsi la monnaie nationale, violant intentionnellement l'article 57 qui précise que les frais doivent être payés en francs congolais. On donne même les montants, je vous donne un exemple. On dit, pour les frais de dépôt et d'enregistrement de la requête, on dit 500 francs congolais.
Oui, maître, nous allons revenir. Il y a une dame qui est au standard, on me signale par Julie, qu'il y a une dame qui est au standard. On va lui, un homme, oui, il s'appelle comment? On va lui donner la parole. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour la radio Okapi.
Benjamin.
Allô, vous m'entendez?
Oui, vous nous appelez de quelle ville?
Voilà, je m'appelle Benjamin Nguigny, je suis au quartier central, précisément dans la ville de Kalanga.
On vous donne la parole.
Voilà, je commence d'abord par saluer la pertinence du sujet. J'ai dit aussi merci au gouvernement parce que c'est une bonne initiative. Ça permet à ce qu'il y ait de l'ordre dans ce que les pasteurs sont en train de faire. Alors ma question est celle de savoir, c'est par quelle expérience que le gouvernement congolais a voulu mettre en place cette technique pouvant en faire en sorte qu'il puisse répertorier les églises ou peut-être de cette manière comme ils sont en train de les dire. Parce qu'il y a des choses comme ça qui se font juste pour surcharger les budgets du pays jusqu'à faire en sorte qu'il y ait des personnes qui peuvent commencer à voler de l'argent n'importe comment. Je vais dire l'argent du pays. Alors vous pouvez m'excuser, ce n'est pas pour dire que les ministres sont des voleurs, car mettez-moi le terme. C'est par quelle expérience que le gouvernement congolais a voulu mettre en place cette mesure faisant à ce qu'il y ait du contrôle par rapport aux églises, je vais dire les pasteurs en général.
Merci beaucoup, M. Benjamin. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kananga que vous intervenez. Mais dites-nous, quelle est la réalité qui prévaut au niveau de la ville de Kananga concernant le fonctionnement des églises?
Voilà. Je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas réelles. Ici à Kananga, il y a pas mal de choses qui se font. Les églises sont en train d'évoluer d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. Il y a que les églises qui s'ajoutent du jour au lendemain et par là, nous remarquons qu'il y a du désordre parce qu'on ne peut pas passer des jours sans remarquer les églises qui font des cultes. Bon, c'est pas quelque chose d'étonnant. C'est bien la mesure qui est prise par le gouvernement, mais nous voulons vraiment savoir c'est par quelle expérience. Parce que on peut être en train de le dire comme ça parce que ça s'est fait ici à Kananga. Alors on veut vraiment savoir ce que le gouvernement a remarqué, ce qui a fait à ce que cette mesure soit prise.
Merci beaucoup, excellente journée au niveau de la ville de Kananga. Nous sommes là au Kasaï Central. Maître, comment répondez-vous à Benjamin? D'après lui, il dit qu'il y a aussi des sources qui disent hein, que le ministère l'a fait pour se renflouer un peu ses caisses.
Non, en tant que juriste, je ne peux pas affirmer de tels propos parce que ma déontologie d'avocat m'interdit d'affirmer des choses dont je n'ai pas la maîtrise. Parfait. Donc, il y a des frais exigés aussi longtemps qu'il n'y a pas de preuve pas affirmée. Mais c'était un auditeur, c'est un compatriote. Il a quand même le droit de s'inquiéter parce qu'il est contribuable. Alors, je disais avant de répondre à la question du compatriote de Kananga, il y a un autre problème à l'article 57 sur les frais à payer. Ces frais sont fixés en francs congolais et ont été fixés à l'époque, en tenant compte de la réalité économique. On parle des 500 francs ici, c'était en 2001. Est-ce que le ministre a fait un effort d'initier une réforme de la loi pour adapter les frais actuels? Parce que, en droit, tout frais fixé doit avoir un soubassement légal. La loi mère est là, la loi qui gère. En vertu de quel principe on nous fixe l'identification de l'église à 500? Il faut aller même à 1000. Si les ministres, messieurs, je voudrais même dénoncer. Si vous ne motivez pas les agents, ils ne déposent pas les dossiers sur votre table. Ça peut faire une année, deux ans, alors qu'on a payé tous les frais.
Oui.
Donc, il y a aussi un effort à faire pour adapter le paiement des frais et les coffres. Parce que la loi dit, la linéa dernière
de ce matin. Mais pour la personnalité juridique, il y a des sources qui disent même qu'il y a des ONG qui payent à hauteur de 5000, hein, pour avoir ces documents-là. À hauteur de 5000.
Vous pouvez aller à 1000.
Oui.
Oui, oui. Une maladie congolaise dans tous les secteurs. Si vous payez normalement, vous avez le dossier en retard.
Ça met à une année, deux ans, sans pour autant retirer le document. Maître, je reviens à vous. Oui. Il y a un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bounia. Il s'appelle Thomas. Thomas, bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bonjour.
Merci pour la parole nous accordée. Je pense que l'initiative du ministre de la Justice est vraiment salutaire parce que on le voit depuis qu'il est là à la tête du ministère de la Justice, il a quand même beaucoup d'initiatives. Parmi les ministres du gouvernement soumis, moi, vraiment, il est parmi les ministres qui sont vraiment actifs et qui ont beaucoup d'ambition dans leur domaine, dans ce domaine-là. Mais quand cela ne tient, lorsque le ministre nous dit qu'il va fermer les églises, qui se situe à 500 mètres du domicile là déjà, mais je pense qu'il y aura un sérieux problème lors des cotations parce que le juge ne peut que se statuer sur le base d'une loi, mais pas sur le base de la communiqué doit faire allusion le ministre, parce que lorsque on arrive quand même à fermer une église, je pense qu'il y aura des cotations, les responsables de cette église là pourront aller en appel contre cette décision. Et je pense que le juge sera incapable, parce que le juge doit statuer que sur base d'une loi. Le juge ne peut pas statuer sur la base d'un communiqué. Le communiqué n'a pas la force de la loi. Je pense, sur ça, le ministre, à mon humble avis, qu'est-ce qui se devait se passer? Pour moi, premièrement, d'abord, le ministre devait commencer d'abord à fermer, à vérifier d'abord les églises. Est-ce que réellement ces églises ont quand même l'autorisation de fonctionner? Je sais pas, on doit aller progressivement. On commence d'abord à vérifier est-ce que réellement les églises ont été autorisées
si ces églises se conforment à la loi.
Oui, conformément à la loi. C'est par après, on doit passer maintenant, faut vérifier maintenant si les hommes de Dieu, est-ce que réellement ces hommes de Dieu ont-ils des documents ou ont-ils un niveau pour prêcher? Là, ça devait être la troisième étape et la dernière étape, cette fois-ci, à mon avis, devait être la sanction. Fermer maintenant, fermement les églises ou les hommes de Dieu qui ne se sont pas conformés à la loi, mais aller. C'est comme si le ministre tentait de faire le méli-mélo, mélange tout. Moi, je pense qu'on devait aller progressivement. D'abord, vérifier si réellement les églises ont eu des documents nécessaires pour fonctionner. Ensuite, vérifier d'abord si ça sera autour de nous, ces hommes de Dieu, de vérifier est-ce qu'ils ont un niveau d'abord pour prêcher. Parce que dans notre église, ici, on voit, ici, à vue, certaines églises, là où on voit quand même les pasteurs, je ne sais pas s'ils ont eu ces dons-là de prêcher, ils parlent de n'importe quoi, ça aussi, on doit vérifier. Mais à la fin, cette fois-ci, on devait appliquer la loi. Cette fois-ci, vous n'êtes pas au top, vous ne appliquez pas les règles, on vous écarte et on ferme catégoriquement les églises, au lieu de mélanger tâtons, des personnalités, on n'a pas encore terminé. On saute, finalement, il n'y a pas aujourd'hui.
Merci beaucoup, monsieur Thomas. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia, en Ituri, que vous intervenez. Excellente journée. Maître, Comment répondez-vous à la préoccupation de Thomas de Bounia? Bon, on était en train de parler de l'inadéquation sur les prix que dit la loi et les montants que les demandeurs payent au niveau du ministère. Terminez d'abord votre argumentaire et après vous répondez à la question de Thomas.
Je disais, l'action du ministre serait encore succulente s'il aborde les vrais problèmes, parce que parmi les causes qui font que beaucoup d'églises n'aient pas tous les documents, c'est la hausse vertigineuse des prix exigés. La loi a déjà fixé l'article 57. On parle de 2500, de 250, de 500, ça peut faire rire. Mais ça a été pris à l'époque de la réalité économique de l'époque.
De l'époque, ouais.
Le travail de l'autorité, c'est aussi d'adapter
d'actualiser
cela. Et la loi est claire. Mmh. Oui, on dit un décret du ministre, du président doit être pris. Actuellement, pas de l'ordonnance. Donc, le président de la République doit prendre une ordonnance pour adapter ses frais à la réalité actuelle. Ce n'est pas l'arrêté du ministre. On doit être respectueux de la loi. Soit le ministre initie une proposition de loi au Parlement pour modifier, soit le président par une ordonnance pour adapter. Par rapport à l'intervenant qui vient de parler, je voudrais lui dire que l'article 23, l'article 23 de la loi donne le pouvoir au ministre ou au gouverneur au niveau des provinces de surprendre une église ou d'arrêter une église lorsque cette église ne se conforme pas à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ce sont les deux raisons pour lesquelles une église peut être fermée. Quand on dit l'ordre public, on suppose que la loi a été respectée, les documents sont normaux, il n'y a pas de nuisances sonores, il n'y a pas de tapage. Quand on dit bonnes mœurs, on suppose que ce que vous prêchez ne heurte pas le mœurs, ne heurte pas la moralité.
Oui, mais si lui a souhaité que le ministère puisse y aller étape par étape, parce que d'après lui, il y a du méli-mélo dans ses décisions.
Il a totalement raison. Il y a dans la vie, dans toute chose, des méthodes. J'aime Akerlof, économiste américain, qui disait « L'efficacité des résultats dépend de la manière dont on aborde le problème. » Je suis d'accord avec lui, les mesures sont bonnes, mais il faut aller de manière méthodique, structurée. Parce qu'il y a d'abord un travail pédagogique qui doit être fait, rencontrer les églises, leur expliquer ce que la loi dit. Il y a un problème financier, beaucoup d'églises n'ont pas assez de moyens.
Il
y a un problème d'application de la loi, oui. Donc je suis d'accord avec lui. Par rapport aux hommes de Dieu, il a raison. La loi précise, article 49 50, pour être fondateur d'une église. Voilà pourquoi nous fustigeons l'administration. Avant d'accorder à une personne l'autorisation de prêcher, il doit être saint d'esprit. Est-ce qu'il vous a remis un examen médical? La loi dit qu'il faut un examen médical d'un neuropsychiatre. Des deux, il doit faire preuve d'une connaissance en théologie. En vous exhibant son diplôme de licence en théologie ou un équivalent, il y a des instituts bibliques. Et on doit savoir que c'est un établissement agréé. Des trois, il doit être âgé d'au moins 30 ans. Aujourd'hui, il y a des jeunes zélés remplis d'onction. À 20 ans, 25 ans, il parle la parole. Voilà pourquoi l'onction ne suffit pas. Vous faites passer une maman âgée de 50 ans. Maman, c'est une, je peux appeler outrage. C'est un outrage à sa personnalité. Vous faites parler quelqu'un. Vous faites une prophétie qui dit la vérité, mais devant les gens. Voilà pourquoi on exige que l'homme de Dieu ait au moins 30 ans pour la maturité. Et enfin, il doit avoir, n'ayant pas été condamné, au moins en 5 ans. Donc il doit avoir un casier judiciaire pur et avoir une bonne moralité. Ce sont là les conditions, monsieur Galabia, que la loi a fixées avant qu'on ne puisse vous autoriser de vrai. Malheureusement, comme nous l'avons dit au Congo, chacun peut s'élever, il voit un agent du ministère de la Justice, on lui accorde les F92. C'était ça le souci qui a animé les ministres de mettre de l'ordre, mais il doit le faire de manière méthodique, appropriée et surtout pédagogique. Par rapport au répertoire des églises, comme l'a dit
Maître, nous allons retourner. Oui. Je vais revenir à vous. Hein. On donne la parole à l'auditeur qui appelle de Kananga. Il s'appelle Yves Laurent. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour. C'est Yves Laurent, mon Kinshasa. Je ne suis pas Kananga.
Ah, c'est plutôt à Kinshasa. Bienvenue dans Capi Service.
Merci beaucoup. Je salue d'abord les mesures prises par le ministre de la Justice, Constant Moutama, concernant les ASBL et les églises. Je pense que nous sommes dans un monde sociétal. Un monde sociétal demande beaucoup plus de normes. Nous ne sommes pas dans un monde animal. Parce qu'aujourd'hui, dans nos avenirs, nous assistons à des pollutions sonores qui proviennent de nos églises. Je pense que cette mesure qui est prise par le ministre de la Justice, elle est vraiment à saluer, elle est vraiment louable. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de ces pasteurs-là, non parce qu'il maîtrise la Bible, parce qu'il a 5 membres de famille, bon, pour lui, donc, il doit faire une église. Je pense que la mesure qui est prise concerne ceux qui devaient construire l'église, il est d'abord prévu d'avoir d'abord le...
On est déconnecté avec l'auditeur qui a appelé de Kinshasa, mais on a compris les fonds de sa pensée. Maître, comment répondez-vous à Yves Laurent qui appelle au niveau de la ville de Kinshasa, qui a appelé à Kinshasa au fait?
Merci beaucoup, Monsieur Tati du Verbe. Avant de répondre à Yves Laurent qui appelle de Kinshasa, j'ai rappelé, parce qu'un auditeur n'a pas dit répertoire, les églises ont l'obligation de rédiger des rapports annuels et de les déposer au ministère de la Justice. Ça permet au ministère de répertorier et de voir
et comment d'actualiser les données.
Ouais. Lorsqu'elles organisent des assemblées générales, elles ont le devoir d'inviter les délégués du ministère de la Justice. Ces gens-là ont le devoir de voir si l'Assemblée générale respecte la loi et les statuts. Il n'a pas d'expérience.
Oui, maître, mais est-ce que ce travail de documentation se fait en amont? Tel
non,
qu'il est dit la loi.
Pas du tout. Non, d'ailleurs, la loi sanctionne une église qui ne remet pas son rapport. Au niveau des autres ONG et ASBEL, on dit qu'ils doivent déposer au ministère du plan un rapport annuel détaillant les activités, les difficultés rencontrées, les propositions. C'est à partir de ces rapports que l'État jette un œil sur leur fonctionnement pour vérifier si la loi est respectée ou pas. Mais l'État a également le devoir de descendre sur terrain, d'exiger cela, parce que les non-versements du rapport sanctionnent l'Église qui n'a pas donné. Par rapport à Yves Laurent, oui, il a raison, mais comme je l'ai dit, l'article premier de la loi fondamentale et l'article 37 de cette loi garantit la liberté des cultes et d'associations. Toute personne est libre de prier où il veut et d'ouvrir une église. Mais cela doit se faire conformément à la loi. C'est ça le combat du ministre. En dépit des vicissitudes que nous déplorons et qu'il doit arranger, nous encourageons son combat, car l'église est la lumière du monde, comme le dit Matthieu 5:14. Et en tant que telle, elle doit prôner les valeurs, elle doit se conformer à la loi, elle doit prêcher l'éducation. Voilà un peu la réponse à la question de Yves Laurent.
Maître, il y a un auditeur qui est au standard, hein. Il intervient depuis la ville de Kinshasa. Il s'appelle Elvis. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Ouais, je voulais, sur ce sujet, nous avons débattu depuis la semaine passée sur, sur la parole aux auditeurs avec d'autres maîtres. Mais c'est une question vraiment comme l'invité est en train d'insister. C'est une question qui demande un peu plus de suivi. Parce qu'ici, à Kinshasa, peut-être, comme l'un des auditeurs qui avait parlé de Kananga, les Congo souffrent de la même maladie. Si vous voyez ici même chez nous, dans notre commune, vous allez trouver dans un quartier, dans une avenue, vous le trouvez plus de 9 ou 8 églises. Ils sont vraiment d'une parcelle à l'autre.
Sur la même avenue.
Ils sont comme ça.
Côte à côte.
Dans la même avenue, vous avez 9. D'un côté, c'est-à-dire, vous passez une parcelle après l'autre. C'est comme si ça devient comme une chose familiale. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une famille, il peut élargir, il peut ouvrir une église. C'est un problème de suivi. Si vraiment le ministre voulait faire cela, il devait d'abord commencer par contrôler ce qu'ils ont les documents. C'est bon. Les pièces se demandaient pour qu'une personne puisse ouvrir une église. Ça veut demander quoi? Est-ce que toutes ces églises remplissent ces conditions? Si c'est non, mais il continuera d'abord, commencera d'abord par fermer l'une après l'autre. D'aider, le ministre avait parlé de nuisances sonores, des baffles, des musiques, de tout ça. Alors, tout ceci pouvait arriver jusqu'à ce niveau, jusqu'à tel point que d'abord, il faut d'abord identifier d'abord toutes les églises qui remplissent les conditions. Vous allez voir que les petites églises qui embrouillent souvent les gens avec des veillées toute la journée, toute la semaine, ils vont commencer par fermer. Et vous allez voir que toutes les bonnes églises, par exemple, les églises, je peux dire même les églises, des anciennes églises comme catholiques, méthodistes, d'autres églises, vous allez voir qu'ils ont un programme qui suivent. Par exemple, chaque mardi, ils auront un programme, peut-être une heure. Mais les autres, vous allez voir les églises de la veille, de la chrétienté, ici, qu'est-ce qu'il faut? Le veiller se fait chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, il y a église. C'est-à-dire, on n'a même plus le temps de se reposer.
Du lundi au lundi. Du dimanche au dimanche.
Ils ont les papiers, ils ont les plus.
Merci beaucoup, monsieur Elvis. Et nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Maître Omar, Elvis affirme qu'il y a du désordre dans le secteur et qu'il faut, vraiment penser à l'assainissement de ces créneaux-là.
C'est ça, je l'ai toujours dit, monsieur Tati, l'État ne s'implique pas, il a les pouvoirs. Le rôle du pouvoir, ce n'est pas de se plaindre, d'agir. Alors, je voudrais rapidement rappeler au dernier intervenant que la liberté des cultes est garantie. Mais deuxièmement, il faut que cette liberté
s'exerce
dans le respect de l'ordre public et bonne mœurs. Quand on dit ordre public, on suppose que vous devez avoir tous les documents exigés. Quand on dit ordre public, on suppose que votre sonorisation ne doit pas occasionner des tapages nocturnes. Quand on dit ordre public, vous devez régulièrement verser des rapports au ministère de la Justice. Quand on dit ordre public, vos assemblées générales doivent refléter les statuts ainsi que les règlements. Quand on dit bonne mœurs, vos prédications doivent d'abord promouvoir la paix, doivent promouvoir les bonnes mœurs, doivent promouvoir la moralité. Alors, pour finir, je voudrais, s'il y a encore le temps, aussi parler oui, de la sensibilisation.
Mais, oui, mais maître, est-ce que vous ne pensez pas que la responsabilité est partagée du côté des gestionnaires des églises et du côté du ministère?
Vous m'avez vraiment inspiré, vous avez lu dans mes pensées. Je voudrais chuter par là pour dire l'assainissement du secteur des églises au Congo n'est pas l'apanage exclusif du ministre. Seul, il ne peut rien. Au-delà de ce qu'il fait, parce que il est un ministre régalien. Son pouvoir, c'est de rétablir l'ordre. Les responsables de plateformes, on en a aujourd'hui 5. Les églises catholiques, islamiques, églises de réveil, protestantes et les églises indépendantes. Chaque responsable de plateforme a sous son autorité des églises qu'il gère, s'ils peuvent relayer ce que la loi prévoit. Au niveau de chaque église, je suppose qu'il y a des avocats et des magistrats, je suppose. Dans chaque église, au moins, il y a un juriste. S'ils peuvent faire l'effort d'aider les leaders de leurs églises, d'aider leurs pasteurs. Parce que je l'ai toujours dit, l'intelligence, c'est pas le fait de parler français ou anglais. C'est d'utiliser son cerveau pour apporter des solutions aux problèmes de sa communauté, une case spéciale de son église. Donc, le travail est partagé au niveau de médias. Merci à la radio Okapi, merci à vous, monsieur Tati, parce que c'est plus de 4 fois que vous le faites, et de manière gratuite. Vous demandez rien à l'État. Au niveau de médias, au niveau des ASBL, au niveau des partis politiques. Parce que les partis politiques n'ont pas seulement le rôle de conquérir les pouvoirs, mais aussi d'éduquer civiquement ces militants. Donc, le travail doit être fait en amont et en aval. Il doit être fait dans tous les secteurs, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des responsables des plateformes, au niveau des églises, au niveau des avocats de chaque église, au niveau de médias, et pourquoi pas au niveau des écoles, déjà, qui est un milieu éducatif par excellence. Déjà, dès l'école, dire à l'enfant, voilà l'église, voilà comment elle fonctionne, voilà ce qu'il faut faire.
Oui, maître, il y a un auditeur, rapidement, on lui donne quelques minutes, hein. Il s'appelle Roger, il est à Kananga. Roger, on vous donne la parole, bonjour.
Oui, c'est toujours l'ingénieur Roger depuis la ville de Kananga.
Oui, les temps se grignent vite, on vous donne la parole. Allez-y pour quelques minutes.
Nous nous trouvons ici à Kananga, vous passez dans une avenue, vous trouvez la batterie des jus d'église. Mais aujourd'hui, la population est totalement grande. Par rapport à ça, on a conçu beaucoup d'églises à ce que la population puisse continuer. On ne peut pas se limiter pour rester dans des églises ou trois églises. Non, non. Même si là, les familles ont élargi un peu, on peut se réunir et trouver une église qui finit. Par rapport à ça, moi je trouve bien que vous voulez que les églises commencent à payer les impôts ou bien. Je ne comprends pas la vision des ministres jusqu'alors.
Merci beaucoup, monsieur Roger. Comment réagissez-vous à chaud, maître Omar, hein, sur la préoccupation de Roger? Il dit la démographie augmente et il faut qu'il y ait beaucoup d'églises.
Merci, monsieur Tati. Comme nous l'avons dit, la circulaire du ministre n'a qu'un seul objectif. Rappeler aux ASBL ou aux églises que vous avez la liberté de faire vos cultes, de prêcher, mais cela doit être fait conformément à la loi. C'était ça sa démarche. Mais seulement, elle doit la cadrer, cette démarche. L'autorité administrative doit la cadrer, doit la précéder d'une sensibilisation forte, mais doit aussi curer sa propre maison, car si au niveau de la tête, rien ne marche, au niveau des églises, rien ne marchera. Nous avons beaucoup de respect pour les églises. Elles contribuent énormément pour le développement de la société, mais elles doivent se conformer à la loi, car le premier pas sérieux vers la crédibilité commence par le respect de la loi et par l'autorité ministérielle et par les églises. Donc voilà ma conclusion, monsieur Tati. Je vous dis merci de m'avoir invité à ces précieux programmes. Merci de m'avoir associé à ces précieux débats dans la plus grande radio de la RDC. Merci, monsieur Tati.
Nous également vous remercions de votre disponibilité pour prendre part à ces rendez-vous de pédagogie et sensibilisation au Capi Service. Excellente journée. Je rappelle que vous êtes maître Omar, avocat au niveau du barreau de la barreau de Gombe, ici à Kinshasa. Excellente journée. Merci d'avoir été avec nous dans cette première tranche d'au Capi Service. Voilà, dans la deuxième partie d'Okapi Service, nous allons parler de la gestion de débordement des diplômés dans les grandes villes de la RDC avec deux invités. À tout à l'heure.